Un auditeur nous écrit « Je vous corrige ». Il n'y en a pas de police sur le chemin. C'est rendu dangereux de rouler à la limite de vitesse à Québec. Même faire des vrais stops, c'est risqué. On risque de se faire rentrer dedans. on a des barrages policiers le soir, effectivement, pour l'ébriété. Oui. D'ailleurs, les deux derniers, là, ils ont fait chou blanc. Hein?
Ah oui.
Les deux derniers, ils ont pincé personne.
Ben, tant
ils
mieux.
Ont donné des contraventions pour des lumières brûlées et des affaires de même. Là.
Mais tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que ça finit par avoir un effet.
Oui.
Le but, c'est pas d'arrêter du monde. Le but, c'est d'arrêter l'ébriété au volant.
Puis c'est vrai que des fois, à Québec, on conduit drôlement. L'autre jour, j'ai un collègue qui m'est passé dans la face en tournant à droite. Moi, j'étais sur le trottoir. Il tourne à droite. Avec son mastodonte, il met pas de clignotant. Il dit, parce que je suis dans la voie qui tourne. C'est sûr, je mettrai pas mon clignotant. C'est clair, je suis dans la voie qui tourne.
Mais on nommera pas de nom.
On a comme ça, parfois, des automobilistes où on a des réflexes qui deviennent négligents. Bon, voyons, je tourne, tout le monde sait que je tourne. Te rappelles-tu, à Montréal, à un moment donné, c'était mis sur un coin de même où tout le monde tournait à gauche,
ouais.
Puis ils ont intercepté tous ceux qui n'avaient pas mis leur clignotant.
Ah, je savais pas, je me souviens pas.
Oui, ça avait fait un scandale, parce que dans le fond, là, c'était un piège à con faire ça, là. Les gens n'avaient pas tout à fait tort. Bon, il y a des grands paradoxes au Québec. Et un des grands paradoxes, c'est le paradoxe écologique. On est très écolo. On recycle. Moi, je descends mon bac de recyclage régulièrement. Je suis sûr que toi, tu fais pareil. On recycle. On fait attention à notre consommation. On utilise des sacs de plastique réutilisables. Il y en a même qui poussent jusqu'à composter, etc. Sauf que quand il s'agit d'acheter une voiture, on a envie d'une grosse auto. Puis ouais. Quand on veut une maison, on a envie d'une grosse maison.
Oui. Mais par ailleurs, je voudrais juste te reprendre. Dans ton préambule, tu dis, on fait ci, puis on fait ça. Ouais. Les médias, puis une certaine classe politique, disent qu'on fait ci et on fait ça. Je suis pas sûr de ça.
Non?
Non.
Ah, moi, dans mon entourage, je vois beaucoup de gens. Écoute, je me fais, ouais. Me fais chicaner parce que je sais qu'il n'y a pas comme du monde. Là.
On le fait un petit peu, mais ouais. Le monde n'est pas si écolo que ce qu'on lit dans les journaux. Mais vraiment pas.
C'est ce que je crois comprendre du rapport qui a été fait sur le portrait énergétique du Québec par des professeurs de HEC. Un des co-auteurs du rapport et qui est professeur au HEC, c'est Pierre-Olivier Pinault. Bonjour, M. Pinault.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Le portrait énergétique, c'est qu'on n'est pas si écolo que ça, hein?
Ben, il y a deux volets. On a un côté très écolo qui est réel. C'est au niveau de la production d'électricité. Le Québec est vraiment un leader à l'échelle mondiale. Il y a à peu près aucun endroit, à part la Norvège, où on produit une électricité aussi propre qu'au Québec, sans émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dessus, on est numéro un. Maintenant, quand il s'agit de nos comportements et de notre consommation, là, il y a effectivement des très gros progrès à faire parce que on pourrait faire beaucoup mieux, ça nous coûterait moins cher et là, on pourrait dire qu'on serait écolo si on faisait ces progrès-là.
Mais je regardais votre rapport, enfin, le reportage qui a été fait à partir de votre rapport, et puis je me demandais, avez-vous été plus loin? Pourquoi les gens veulent tant avoir une grosse voiture qui dépense beaucoup d'essence? Pourquoi?
C'est une bonne question. Puis là, nous, dans le rapport, on rentre pas dans ces raisons-là. Mais par contre, ce qu'on sait, parce que il y a quand même des évidences, le taux d'intérêt, l'accès au financement, c'est certain que c'est un facteur qui rend facile l'endettement des gens. Et d'ailleurs, quand on regarde les taux d'endettement des ménages, ils augmentent. Et en grande partie, après l'habitation, qui est le premier poste d'endettement des ménages, c'est le véhicule. C'est facile de s'endetter pour un gros véhicule. Si vous êtes assis dans un VUS, vous vous rendez compte que c'est plus confortable, qu'on se sent mieux, que ça flatte notre ego parce qu'on est un peu plus haut que les gens qui sont en voiture. Et puis, on se sent en sécurité. Non, et les autres en ont. Donc, on veut se dire, mais pourquoi pas moi? Et puis, aussi, c'est que on est content d'avoir un gros véhicule parce que c'est agréable. Alors, c'est dommage parce que ça vient avec de l'endettement, ça vient avec évidemment une consommation d'essence qui est plus grande que si on avait une nouvelle voiture qui consomme de moins en moins. Les VUS aussi consomment moins, mais ils consomment toujours plus qu'une voiture.
Oui, mais ils sont beaucoup améliorés. Là. Il y a beaucoup de VUS qui roulent maintenant à 9 litres au 100 km, 8 litres au 100 km.
Absolument, mais donc ce qui fait en sorte qu'on consomme pas moins d'essence aujourd'hui, c'est parce qu'au lieu d'acheter une voiture qui maintenant consomme 7 litres au 100 km, on achète un VUS qui consomme 9, la même chose que notre voiture d'avant.
Ouais.
Donc au lieu de réduire notre consommation d'essence, on fait un upgrade et on garde notre consommation d'essence au même niveau.
Mais pour ce qui est des maisons, vous soulignez que les gens aiment les maisons grandes. Ils aiment ça, maison ou condo, ils aiment l'espace. Est-ce que c'est pas là, d'ailleurs, une des différences marquantes entre la population européenne et la population nord-américaine? Les premières fois que je suis allé en Europe, moi, j'en revenais pas de l'exiguïté des lieux où les gens vivaient. Ouais. Il y avait une notion d'espace très, très différente.
D'ailleurs, dans les nouveaux condos, quand ils te disent plan européen, c'est que t'as pas de place.
C'est vrai, et on peut pas blâmer les gens, c'est le fun d'avoir de l'espace. Maintenant, ce qui se passe depuis 25 ans, la moyenne des maisons a augmenté en temps, et la moyenne des maisons et des appartements, là, tous les logements confondus, ça a augmenté de 17% la moyenne des logements. Et en plus, il y a plus de logements par 1000 habitants. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de logements parce que les ménages deviennent de plus en plus petits. On a malheureusement des séparations, on a des gens qui vivent plus vieux et donc qui sont seuls chez eux, mais ils gardent une grande maison, puis ils vivent seuls. Et évidemment, on ne peut pas les blâmer de rester chez eux. Sauf que, ce que ça fait, c'est que même si par pied carré, on consomme moins d'énergie par pied carré habité, on a plus de pieds carrés et on a plus de maisons. Et donc, on annule les gains. Encore une fois, alors qu'on pourrait réduire notre consommation d'énergie, on la maintient au même niveau. Et c'est là où on n'est pas aussi écologique qu'on pourrait l'être, parce que est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir toujours des plus grandes maisons? Où est-ce que ça va s'arrêter? Et là, il faut se dire, mais OK, on va peut-être au moins ralentir la croissance et l'arrêter.
Ouais,
on
a quand même besoin d'un peu d'espace vital. On vit beaucoup dans nos maisons. Dans des pays nordiques comme les nôtres, on est beaucoup dans nos maisons. Il y a bien des pays où ils se contentent effectivement d'espaces plus petits, mais ils peuvent vivre dehors.
C'est vrai, mais on a des agriculteurs qui commencent à se plaindre qu'on vient manger leurs terres agricoles. Est-ce que c'est ce qu'on veut, ça? Toujours pousser les agriculteurs à avoir de moins en moins de terres agricoles. On a des écosystèmes à protéger. L'étalement urbain, ça pose des problèmes. Et on a de plus en plus de pièces vides. Alors, je comprends tout à fait, puis c'est pas pour critiquer le désir d'avoir de l'espace, mais il faut se demander, est-ce que ce désir individuel d'avoir... C'est pas juste de l'espace, c'est plus d'espace. Toujours plus d'espace. C'est ça qu'on vit depuis 25 ans dans les tendances qu'on observe. C'est toujours plus d'espace, toujours plus de grandes maisons et des grosses voitures. Est-ce qu'il faut pas mettre un frein à ça? Les gens se plaignent après des maisons qui coûtent plus cher, des voitures qui coûtent plus cher, de l'essence. Ils s'endettent pour ces logements-là. Mais à un moment donné, il faut simplement se dire, si économiquement parlant, ça pose des problèmes, si d'un point de vue environnemental, ça cause des problèmes, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour changer la tendance.
Mais vous savez, vous avez sans doute raison, mais moi, ça m'avait jamais traversé l'esprit que le fait d'avoir une maison plus grande, une surface habitable plus grande, ou un condo plus grand, qu'il y avait quelque chose d'anti-écologique dans ça. Je le dis sincèrement, c'est en lisant votre rapport ou le reportage qui était fait sur votre rapport que j'en ai pris conscience. Je n'avais jamais pensé à ça en ces termes-là, moi.
Ben, 30% de l'énergie consommée au Québec, c'est pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments commerciaux. Et même la même tendance peut s'observer dans les bâtiments commerciaux. On pense qu'avec le magasinage en ligne et puis Internet, il y a moins de magasins, mais c'est pas vrai parce que les magasins sont plus gros. Faut regarder les pharmacies maintenant, il y a des pharmacies qui ouvrent dans des anciens supermarchés, des supermarchés qui ferment, puis là le bâtiment devient une pharmacie. Puis après, il y a un Costco qui va s'ouvrir à côté. Et on a donc des très grandes surfaces qui s'ouvrent. Et ça demande des matériaux pour construire ces bâtiments. Donc ça, c'est de l'énergie. Tout ce qui est matériaux, là, le bois, l'acier, l'aluminium, c'est de l'énergie qui a été mise dans ces matériaux-là. Et après, il faut chauffer ces bâtiments-là, il faut les entretenir. Et ça, même s'il y a beaucoup de techniques qui font en sorte qu'on consomme par pied carré moins d'énergie, mais comme on cumule et on ajoute plus de pieds carrés, ben, on n'a pas des réductions de consommation d'énergie. Et ça nous amène à avoir des besoins énergétiques plus grands, plus de barrages. La Romaine est en voie d'être achevée là, dans les années à venir, mais ça a causé beaucoup de controverses. Est-ce qu'on en a besoin? Mais c'est en partie pour venir de subvenir à nos besoins énergétiques.
Ouais, mais je comprends un peu les gens de vouloir de l'espace dans là où ils vivent, tu sais. Moi, je pense que ça prend environ 900 pieds carrés pour une personne seule qui vit là. En bas de ça, t'es misérable.
Même 900 pieds carrés, c'est un peu serré. Hein.
Mais c'est l'idée ici, c'est pas de critiquer l'espace qui est souhaitable pour une personne ou de d'avoir un jugement normatif sur combien de pieds carrés est-ce qu'il faut.
Tu sais, quand on était jeune, on était trois par chambre, ça nous dérangeait pas tellement. Aujourd'hui, chaque enfant doit avoir sa chambre.
C'est vrai, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça fait une société qui est plus individualiste?
Ben, ça fait des adolescents qui sont plus heureux, en tout cas, d'être dans leur univers à eux, sans devoir partager avec le petit frère, la petite sœur.
Ça peut résoudre certains conflits, ça peut en créer d'autres sur, mais là n'est pas la question. La question, c'est, il y a des tendances et il y a des objectifs environnementaux et même économiques, parce que quand on regarde ces dernières années, les taux d'intérêt ont été très très bas. Ça a permis à beaucoup de gens de s'endetter à faible coût pour acheter des maisons, acheter des véhicules. Ça, c'est une tendance qui pourrait être coûteuse si, quand les taux d'intérêt, ils commencent à monter les taux d'intérêt, si les gens se sont beaucoup endettés pour avoir des plus grandes maisons, ben, ça va faire mal d'un point de vue économique. Ce n'est pas forcément sage de continuer dans cette tendance-là. L'idée, c'est pas de dire tout le monde doit sortir de sa maison et rentrer dans un appartement. L'idée, c'est de dire on a des tendances qui, économiquement, ne sont pas parfaitement saines et, par ailleurs, elles posent un problème environnemental. Et il y a beaucoup de gens qui veulent agir, nos gouvernements ont des objectifs. Donc, il faut essayer d'aligner les politiques et les incitatifs pour changer la tendance.
Qu'est-ce que vous voulez dire par incitatif?
Moi,
par
j'ai toujours peur d'entendre le mot taxe.
Si on veut avoir un impact, il va falloir des carottes et des bâtons. C'est sûr qu'il faut donner des carottes en disant, donnant des gens pour comment mieux rénover leurs maisons, pour mieux les isoler, les maisons. Même chose pour le transport. Il faut donner des alternatives, transport en commun, incitatif au covoiturage, faciliter le télétravail, le transport actif, la bicyclette. Mais il va aussi falloir dire aux gens, regardez, c'est qu'il y a des comportements problématiques. Vous aimez votre VUS, mais le problème, c'est qu'il prend beaucoup d'espace et il consomme de l'essence, ça a des impacts environnementaux. Donc, il va falloir, taxer et pour donner une indication économique que ce n'est pas le bon choix. C'est pas interdire, c'est juste dire ça cause des problèmes. Alors, il faut être responsable et il faut que vous payiez pour ces problèmes-là.
Au fond, là, pour respecter nos engagements dans des traités internationaux pour la réduction des gaz à effet de serre, les gens sont en train maintenant de réaliser, après avoir donné des ovations debout à nos politiciens comme Stéphane Dion et d'autres qui ont poussé vers ça à partir de l'entente de Kyoto, les gens sont en train de réaliser, oh là là, au-delà des vœux pieux, au-delà de notre conscience écolo, ça coûte cher, ça?
Non, ça c'est une fausse conception. Oui, il peut y avoir des prix en plus. Ça va coûter cher pour ceux qui ne changent pas leurs habitudes. Mais on sait qu'on a tellement de gains d'efficacité qui sont possibles qu'en fait, ça peut nous coûter moins cher. Je vais vous donner un exemple. Au Danemark, l'électricité coûte 35 cents le kilowattheure. Au Québec, on paye 8 cents le kilowattheure. Est-ce que les Danois sont plus pauvres que nous? Est-ce qu'ils ont une moins bonne vie? Ils se sont organisés pour vivre avec des prix différents et des consommations différentes. Mais la qualité de vie au Danemark, si vous regardez des palmarès internationaux, la qualité de vie au Danemark, elle est loin d'être inférieure au Québec, au contraire. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est oui, il y a des changements, mais c'est un petit peu comme arrêter de fumer. Arrêter de fumer, est-ce que ça coûte cher? On a mis des taxes sur le tabac. Est-ce que ça veut dire que ça coûte cher? Ben non, ça veut dire que les gens fument moins, et c'est une bonne chose pour eux, mais ils peuvent quand même fumer s'ils le veulent, mais il faut qu'ils payent plus, et en bout de ligne, ils ont des incitatifs pour arrêter de fumer. La consommation d'énergie, c'est la même chose.
Pendant qu'on se parle, M. Pinault, je reçois plein de messages d'auditeurs là, qui peuvent nous écrire par plusieurs moyens et qui me disent « Ouais, mais ils s'attaquent toujours aux petits citoyens qui se payent quelques luxes et jamais aux grandes entreprises qui polluent, jamais aux grands pays qui polluent. On a l'impression que c'est toujours le petit qui doit faire un effort et jamais le gros. »
Mais c'est un très bon point pour faire attention, parce que c'est vrai, là on parle de ce qui touche les gens, mais les industries ont évidemment aussi des efforts à faire. Il se trouve que là où il y a eu des réductions de gaz à effet de serre au Québec, c'est dans le secteur industriel. Il y a eu des fermetures, par exemple la raffinerie Shell à Montréal a fermé, ça a été un gros bonus pour les gaz à effet de serre au Québec. C'est 1 million de tonnes qui ont disparu avec la fermeture. Mais il y a aussi d'autres industries qui ont fait des efforts d'efficacité énergétique, des nouveaux procédés et qui ont réduit leurs émissions. Donc dans le secteur industriel, on a déjà des grosses réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a encore des efforts à faire, c'est vrai. Dans le transport des marchandises, les camions lourds qui sont sur les routes, c'est une tendance assez importante à l'accroissement de la consommation de diesel dans ce secteur-là. Donc oui, ces entreprises-là ont aussi beaucoup de choses à faire. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un effort qui est collectif. C'est à la fois les industries, les commerces. Elles ont des gros efforts à faire, mais les individus aussi. Et il faut que ça soit aidé, facilité par le gouvernement pour ne pas pénaliser les plus petits consommateurs. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plus petits, les ménages à plus faible revenu, c'est ceux qui consomment le moins d'énergie. Alors, ça va être très
Donc, faisons des pauvres. Plus on aura de pauvres, plus on va être écolo.
Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que si on veut protéger les ménages à faible revenu...
Monsieur Finot, faut pardonner Myriam, elle est de mauvaise foi.
Mais je peux comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 20% des Québécois les plus riches, ils consomment trois fois plus d'énergie que les 20% des Québécois les moins riches. Alors, est-ce qu'il faut pleurer pour les 20% des Québécois les plus riches? Je pense pas. Les 20% des Québécois, là, un Québécois sur cinq qui sont dans les plus riches, eh bien, eux, ils ont des moyens de s'ajuster, ils ont des moyens d'isoler leur maison, ils ont les moyens de se payer la voiture électrique. On n'a pas besoin de leur donner une subvention pour payer une voiture électrique. Non. Ça va aller pour eux.
Mais on pourrait par contre donner des bons rabais de taxes pour tous ceux qui achètent des voitures qui consomment, par exemple, moins de 6 litres au 100 km, au lieu de financer des voitures électriques de luxe.
Je pense aussi que ça serait une meilleure option, même si personnellement, je veux pas qu'on finance des voitures électriques, mais ça serait moins pire que de donner de l'argent pour des voitures électriques, parce que vous avez raison, ça coûte même cher une voiture électrique, même avec le 8 000 $, et ça va essentiellement pour des ménages à revenus élevés, et ça, c'est quelque chose qui est socialement inacceptable.
Et juste une dernière chose que je voulais souligner, c'est même pas une question, c'est vrai que les industries sont devenues plus performantes en termes énergétiques et tout, mais en même temps, un des gouvernements les plus écolos qu'on pouvait imaginer en termes de discours, le gouvernement péquiste élu en 2012 a autorisé la cimenterie de Port-Alfred
Port-Daniel,
qui est probablement l'industrie la plus polluante au Québec. Voilà.
Il y a des paradoxes. D'un autre côté, c'est une cimenterie qui est moins polluante par tonne de ciment qui est produite que d'autres cimenteries. Donc, est-ce qu'on veut empêcher d'améliorer des procédés parce qu'on veut pas de développement qui, oui, émettent des gaz à effet de serre? C'est un débat complexe, mais...
Je suis d'accord avec vous, mais c'est parce qu'il y a le discours puis qui finit par avoir l'air hypocrite,
c'est vrai.
Le feeling du citoyen, c'est... regarde, là, les bottines suivent pas les babines chez les grands de ce monde, mais moi, par exemple, on exige que je sois logique. Puis que je me prive du petit plaisir que j'ai de conduire un VUS qui est capable de me sortir du banc de neige sans que j'aie à pelleter avant.
On a un déficit de cohérence dans la société qui se trouve autant au niveau industriel, gouvernemental qu'individuel. Et tout le monde, on doit faire des efforts.
Merci beaucoup, Monsieur Pinault.
Merci beaucoup. Très intéressant.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
C'est vrai que
Myriam,
c'est paradoxal.
Et aujourd'hui, je ne sais pas, tu es en train de battre le championnat de la mauvaise foi. Tu en sors une par derrière l'autre.
Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de messages durant que M. Pinault nous parlait. Là. Et les gens disent, regarde, on a des routes de marde, ça nous prend des VUS, ça nous prendrait quasiment des chars d'assaut.
Je t'ai dit de faire attention à ton langage.
C'est pas
S'il
moi.
S'il vous plaît, mesdames et messieurs, pardonnez-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait.
Je cite in extenso ce qu'un auditeur qui a un langage... aussi peu chantier que le mien.
T'es pas obligé de répéter les mauvais mots. On t'aime quand même, Myriam.
C'est ça.
T'es trop hot aujourd'hui.
Ils parlent des industries, par contre, quoi dire des villes qui déversent leurs eaux usées dans le fleuve.
Ah, ça, c'est exactement. Ça me choque. Ça me choque. Parce qu'en plus, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est comme visible. Ça, là, ça me fait lever le cœur.
Il y en a qui disent, quand t'as cinq enfants, que ça te prend une grande maison, effectivement, un VUS puis un terrain pour jouer, mon ami. J'irai pas en condo dans le vieux. Moi, je dois te dire que je pense que beaucoup de gens ont finalement des VUS parce que, aussitôt que t'as eu ça comme type de véhicule, quand t'embarques dans une petite voiture, là, c'est ce qui vient de m'arriver, moi. J'avais un véhicule où j'étais assis assez haut, là.
Ouais.
Je dominais tout le monde. Bon. J'aime ça, dominer le monde, ça m'arrive pas souvent.
C'est pour ça que tu montes sur un petit banc pour laver ton plancher.
C'est ça. Là, maintenant, j'ai repris une vieille voiture qui appartenait à un ami, là, puis j'ai l'impression d'avoir le cul par terre tout le temps.
Ouais,
j'ai l'impression de sentir la neige que le fond du char gratte.
c'est sûr que dans un climat nordique comme le nôtre, un VUS, c'est pas mal attrayant, bien qu'il y a des voitures quatre roues motrices qui font très bien ça aussi.
OK, on va faire une petite pause. Il est midi 3.